a parlé de plein de choses depuis le début de l'année. Et après avoir parlé de plein de choses, et entre autres, l'amour après Jésus-Christ et la semaine passée, la paix après Jésus-Christ, ce matin, j'avais à cœur de vous parler des relations amoureuses après Jésus-Christ. C'est un sujet à mode, les relations amoureuses dans notre société. Je pense dans le monde entier, n'est-ce pas? Et tous ceux qui sont connectés sur Facebook sont en contact régulier avec toutes sortes de monde qui parlent de leurs relations amoureuses. Hein, vous voyez ça en couple. Hein, les grosses annonces, en couple. C'est important pour notre société, pour nos Québécois et pour les gens un peu partout dans le monde, les relations amoureuses. C'est pas un sujet nouveau. Ma motivation d'en parler ce matin, et ça fait un bout de temps que j'y pense, okay, c'est que je vois autour de moi, et je pense que vous le voyez vous aussi, beaucoup de souffrance par rapport aux relations amoureuses. Okay? Et je m'en viens pas pour démolir les relations amoureuses ce matin. Là. J'y crois. Dieu les a créées. Ils sont bonnes. Mais malheureusement, étant donné qu'ils sont mal vécus, il y a énormément de souffrance partout sur la terre à cause des relations amoureuses. Et s'il y a une chose qu'il faut parler dans l'Église, c'est de ça. Amen. On aime ça parler de l'amour agapé, l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu, l'amour parfait auquel on est appelé. Mais il faut parler aussi des relations amoureuses, qui est un autre type d'amour. Okay? L'amour entre un homme et une femme qui se découvrent et qui deviennent éventuellement un couple, qui fonde une famille et qui font que depuis 6000 ans, la terre la population de la terre grandit continuellement. Amen. Mais on voit cette souffrance-là. Je le vois au bureau, je le vois dans l'Église. Je le vois dans ma famille, je le vois autour de moi. Les couples sont affectés, les familles sont affectées, la société est affectée. On redéfinit ce qu'est un couple dans notre société tellement qu'on est rendu mêlé. Et dernièrement, j'ai été vraiment interpellé par le gouvernement qui disait qu'il était sensible à des demandes de personnes LGBTQ qui demandaient de pouvoir reconnaître 3 parents au lieu de 2. Parce que eux, c'était à 3 qui vivaient ça. Puis le gouvernement a dit oui. Il a pas dit que oui, il le reconnaîtrait, mais on va étudier la question. Reconnaître 3 parents au lieu de 2. On est tellement mêlés. Et notre société va pas bien à cause de ça. Ça affecte beaucoup de savoir que quelque chose que Dieu a créé peut être une source de tellement de souffrance sur la terre. Amen. Le principe créé par Dieu des relations amoureuses, partout dans le monde, c'est bafoué, c'est corrompu, c'est défait. Hein? Ça sort complètement du plan de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de souffrance. Amen. Un souci de Dieu dans Osée. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Là, il parle à son peuple, il parle pas aux gens qui sont pas croyants, il parle aux croyants. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça continue en disant le même verset. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. J'ai toujours été interpellé par la première partie. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et ça, c'est une vérité. Son peuple, l'Église, quand on n'a pas la connaissance, on a beau croire en Dieu, on a beau prier, on a beau aller à l'Église, on fait plein de mauvais choix, puis à cause de ça, on se plante et on en souffre et on fait souffrir des gens autour de nous. Mais c'est la première fois que j'étais interpellé par le reste du verset ici. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Ici, on sait que dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, jamais Dieu va nous rejeter. Jamais. Okay? C'est une alliance éternelle qui est faite avec nous. Mais par contre, la puissance de sa vérité pour faire que notre vie soit bonne et épanouie, cette partie-là veut dire tu n'y auras pas accès parce que tu la rejettes, la connaissance, parce que tu l'as pas, la connaissance. Il dit, tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. Ça veut dire que lorsqu'on s'éloigne des voies de Dieu, lorsqu'on vit notre vie selon notre façon de voir plutôt que la façon que Dieu l'a créée, notre fonction de prêtre qui est d'être des intermédiaires entre Dieu et le reste du monde, ben, on perd cette fonction-là parce qu'on se coupe de Dieu quand on marche pas avec Dieu. Et il va jusqu'à dire de même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et on sait que quand en tant que croyant, on s'éloigne de Dieu ou on vit une religion tout en faisant à notre tête, ça a un impact sur nos enfants et on perd nos enfants carrément. Okay? Donc, il y a une puissance dans ce verset-là qui commence en disant « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. » Faut connaître les plans de Dieu. Faut comprendre les plans de Dieu pour l'être humain. Et ça, c'est essentiel. Donc, le but ce matin, c'est d'acquérir la compréhension. Comprendre pourquoi ça va mal, pourquoi Dieu nous demande ce qu'il nous demande, pourquoi faire les bons choix éclairés. Hein? Donc, compréhension, compréhension, compréhension. Mon but ce matin, c'est pas non plus de faire sentir personne coupable ou mal, ou faire que des personnes disent « Ah, ça, c'est à moi qui me parlait ce matin, c'est moi qui visais là. » Hein? Il a fait une prêche à toute l'Église, mais dans le fond, il voulait juste me parler à moi, puis il n'osait pas me parler en privé, fait qu'il me parlait en public. Je veux juste vous dire que mon message, c'est pour tout le monde ce matin. Pour les vieux, les jeunes, les mariés, les pas mariés, les célibataires, les moitiés célibataires, tout le monde, OK? Donc, je vise pas personne. Je fais juste, merci beaucoup, Daniel, je fais juste souffrir de voir des gens souffrir à cause qu'ils n'ont pas cette connaissance-là des relations amoureuses telles que Dieu les a créées. Amen. Donc, mon désir, c'est de remettre à sa place ce que Dieu a créé et d'enseigner une meilleure voie que nos voies, une meilleure que ce que le monde nous analyse ou essaye de nous enseigner. Donc, c'est la voie de après Jésus-Christ, du Créateur des relations amoureuses. Amen. Jésus fait souvent référence à l'Ancien Testament quand il enseigne. Il y a des citations, il parle de personnages bibliques, des prophètes, des rois, des personnes de foi. Hein? Puis souvent, il va référer à l'Ancien Testament. Mais il y a une fois où Dieu réfère pas à l'Ancien Testament, mais il réfère à une époque avant l'Ancien Testament. Saviez-vous qu'il y avait une époque avant l'Ancien Testament? Il appelle ça le commencement. Hein? Et la vraie ligne du temps, notre thème de l'année, c'est avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, mais la vraie ligne du temps, c'est pas juste avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. C'est au commencement, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Parce que au commencement et dans le temps de l'Ancien Testament, sauf au début, sauf au commencement à la création, ok, c'était vraiment pas la même game, ok. Et au commencement, ça se réfère à avant que Adam et Ève brisent leur confiance avec Dieu et en soient finalement séparés, eux et leurs descendants. Donc, au commencement, c'est avant ça. Dans Genèse 1:1, ça dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Amen. C'était pas pareil comme avant Jésus-Christ. Parce que c'était dans le temps où c'était au temps de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ régnait sur tout dans sa création. Et bien entendu, sur l'homme et la femme qu'il avait créé. Ça, c'est au commencement. Il n'y avait pas d'interférence entre Dieu et les hommes. OK? Dans Jean 1:1, ça dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Jésus était là. et la parole était Dieu. Donc, Jésus régnait sur sa création. Dans 1 Jean 1:1, ça dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, c'est ça qu'on vous annonce. » Ce qui était au commencement. C'est les 3 seules fois dans la Bible où on parle au commencement, sauf une fois où Jésus en a parlé. Donc, ça veut dire quoi? Au commencement, Jésus existait et créait, il régnait, et il n'y avait pas d'obstacle humain-Dieu, et il n'y avait pas d'obstacle humain-humain. On est d'accord que c'est une époque différente de l'époque de l'Ancien Testament avant Jésus-Christ. Amen. Ça va l'air être plus facile. En fait, je pense qu'au commencement, on pourrait dire que c'était l'équivalent de ce qu'on va vivre au ciel. OK? Donc, c'est avant Jésus-Christ, c'était pareil comme ça va être après Jésus-Christ. OK? Parce que juste après Jésus-Christ, ce qu'on vit en ce moment, bien, c'est un temps, oui, de salut et de restauration, mais on n'est pas encore complètement libéré. On a des choses à apprendre, on a des guérisons à vivre, on a le royaume à répandre sur la terre. Amen. Donc, c'était plus facile au commencement que ça l'est maintenant après Jésus-Christ. Jésus a parlé pendant son séjour sur la terre de plein de belles choses, de plein d'espérances, réconciliation avec le Père, réconciliation entre les êtres humains, entre les peuples. Il a parlé d'amour, il a parlé d'amitié, il a parlé de fidélité, il a parlé de foi, d'harmonie, de paix, etc., etc. Mais la seule fois qu'il a dit « au commencement », savez-vous c'est quoi qu'il a parlé? Des relations amoureuses. La seule fois qu'il se réfère au commencement, c'est lorsqu'il parlait des relations amoureuses, parce qu'il voyait très bien que le monde était bien mêlé. De toute façon, il savait, Jésus qui a existé depuis toujours, a suivi tout le cours de l'humanité 4000 ans avant qu'il vienne sur la terre, et il nous a vus nous mêler encore plus. Alors, il dit ceci dans Matthieu 19, 4, 6. « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Donc ici, Jésus fait référence à la Bible, à Genèse, okay, le premier livre de la parole, qui parle du commencement pendant 2 chapitres avant qu'il y ait le premier péché. Donc, il fait référence à cette époque de avant Jésus-Christ. Cette époque heureuse et sans obstacle entre les relations. Et bien entendu, sans obstacle dans la relation amoureuse. Donc, Jésus est en train de dire, « Ma venue, c'est pour vous ramener là, au commencement, où il n'y avait pas d'obstacle à votre bonheur. » C'est pour ça que je suis venu sur la terre. Amen. C'est bon, hein, quand même, qu'il soit venu sur la terre pour ça. La clé qu'on voit dans ce verset-là, la clé du « au commencement », c'est une seule chair. Au commencement, multipliez-vous. Le monde que j'ai créé est basé sur une relation amoureuse de parents qui sont unis et qui sont soudés l'un à l'autre, qui sont une seule chair. Et tout ce qui allait naître de cette harmonie parfaite, de cette transparence et de cette unité parfaite dans l'amour, c'était un royaume merveilleux et glorieux. Donc, l'expression clé dans Genèse ici, OK? Jésus la mentionne, puis c'est intéressant de voir qu'il insiste. Il continue en disant « Ainsi », après avoir dit que c'était écrit ça, il dit « Ainsi ». Je vous explique là. Écoutez, ils ne seront plus deux. on est en train de, les disciples étaient en train de discuter par rapport au divorce avec Jésus. Et Jésus est en train de leur dire que malgré la loi de Moïse qui permettait, il dit, oui, il vous l'a permis parce que vous étiez tout mêlés. OK? Mais au commencement, c'était pas comme ça. OK? C'est pour ça qu'il insiste. Il dit, ainsi ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Et il finit en disant, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Qui a uni? C'est Dieu qui a uni, c'est pas l'homme. C'est intéressant de savoir qu'un homme et une femme s'unissent. OK? On pourrait dire, ben oui, mais c'est eux autres qui ont décidé de s'unir. Mais la Bible elle nous dit que c'est même si c'est nous autres qui décident de s'unir, c'est vrai. Ce qui se passe à ce moment-là, il se passe un phénomène, OK, où les âmes s'unissent. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre que Dieu fait chez un homme et une femme qui s'unissent, OK, corps, âme et esprit. Donc, qui s'unissent sexuellement, OK. Lorsqu'ils s'unissent, c'est pas juste leur corps qui s'unit, mais c'est leur âme aussi qui s'unissent et qui deviennent un et qui deviennent inséparables. C'est pour ça que Jésus dit, ne séparez pas ce que vous avez uni. Il dit, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Parce que c'est pas vous autres qui a créé l'homme puis la femme, c'est Dieu. Et la manière qu'il les a créés, c'est que quand ils s'unissent, ils deviennent un. Et c'est plus séparable. C'est plus possible de séparer ça. Ça, c'est au commencement. Après le commencement, il s'était passé 4000 ans où ça se passait pas de même. Mais au commencement, ce que Dieu a créé, c'est ça. Je pense que c'est, si on comprend ça, là, on comprend tous les malheurs de l'humanité reliés aux relations amoureuses et à la sexualité. Juste avant de continuer, je veux rétablir deux choses. Les deux plus grosses blessures ou brisures, je vais dire brisures que l'humanité a pu subir dû à la chute. OK? Et les deux ont rapport à l'intimité. Lorsque Adam et Ève ont arrêté de faire confiance à Dieu, il s'est passé deux phénomènes. OK? Le centre d'intimité, ça, je définis un centre qui est à l'intérieur de notre âme, à l'intérieur de nous. Okay? Dieu avait mis ça en nous. Un, pour avoir une relation avec Dieu, transparente et complète, sans obstacle. Et une, pour avoir une intimité aussi puissante qu'avec Dieu, entre l'homme et la femme qui s'uniraient. Okay? C'est les deux centres qui ont été brisés à ce moment-là. L'intimité avec Dieu a été brisée. Adam et Ève se sont mis à se cacher de Dieu. Ils avaient peur de Dieu. Okay? Et ça, ça a duré jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Jésus-Christ. Et le deuxième réflexe qu'ils ont eu, c'est de se cacher l'un de l'autre. Donc, bris d'intimité entre Adam et Ève. Donc, c'est les deux plus grosses choses qui ont été brisées lorsqu'il y a eu un bris entre les deux, lorsqu'il y a eu un bris de confiance entre l'être humain et Dieu. Amen. Ça, c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que l'ennemi de Dieu est l'ennemi des hommes. C'est là qu'il travaille le plus pour pouvoir nous détruire. OK? Il détruit notre intimité avec Dieu. Il détruit notre intimité entre nous. Et comme ça, en le faisant de cette façon-là, il y a l'arme la plus puissante pour pouvoir détruire l'humanité. Parce que de là viennent tous les autres maux après ça. Amen. Ceci étant compris, on peut savoir où est-ce qu'on se bat pour ne pas laisser l'ennemi nous détruire et détruire l'humanité. Premièrement, dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles. OK? On parle beaucoup de la restauration de Jésus pour notre relation avec Dieu. On parle de la restauration de l'humanité. Mais il faut parler aussi de la restauration de cet phénomène de fusion qui est la sexualité. C'est quoi la sexualité? C'est la façon que Dieu a créée pour qu'un homme et une femme qui s'unissent, fusionnent ensemble et ne soient plus jamais séparés par après. Ça se résume à ça, la sexualité. Et par ça vient plein d'autres choses. T'as des enfants, t'as aussi, tu bâtis ensemble et tout ce qui vient avec, tout ce qui fait que quelqu'un s'épanouit sexuellement. Mais c'est pour ça que ça a été créé. Et quand c'est pas employé dans ce sens-là, on rouvre la porte grande à l'ennemi pour détruire nos âmes. Et on va parler beaucoup de l'âme ce matin. Donc, les relations amoureuses saines, ça inclut un centre d'intimité. Okay, je le fais comme ça serait une région de notre cerveau, de notre personne, okay, qui est intacte et qui est fonctionnelle. Amen. Donc, faut comprendre le commencement pour bâtir l'avenir, n'est-ce pas? C'est ça qu'on fait un matin. Je vous donne des petits dessins. La sexualité est un canal direct, intime, vers l'âme. OK? Ça, c'est important de comprendre ça. L'âme, c'est quoi? C'est tout ce qui touche notre psychologie, nos émotions, notre estime de soi, notre personnalité, notre caractère, notre facilité ou non d'être en relation, notre joie, nos tristesses, notre capacité d'aimer ou d'haïr, nos impulsions, nos obsessions, nos tics puis nos tocs, tous nos dons, nos dysfonctions, notre capacité d'être intime ou non, la douceur de notre cœur ou la dureté de notre cœur, la bonté, la méchanceté, la patience, l'impatience, l'anxiété, la paix, etc., etc., etc. J'ai juste touché à un peu ce qui est à l'âme. Lorsque notre âme est affectée, c'est tout ça qui est affecté. Si la sexualité a un lien direct, aussi direct avec l'âme, on peut-tu comprendre pourquoi il y a tellement de monde qui souffre à cause de la sexualité? Hein? C'est facile à comprendre lorsqu'on comprend ça. Fait que la deuxième chose importante à comprendre, c'est ça. À quel point il y a une proximité entre la sexualité et l'âme. Et si c'est pas utilisé comme Dieu veut qu'on l'utilise, on détruit notre âme, on affecte notre âme. Hein? On fait du mal à notre âme et à tout ce que ça comprend. Donc, Dieu a créé ce canal privilégié-là, OK, en nous, pour une raison, afin que l'homme et la femme puissent fusionner ensemble au niveau de l'âme. C'est ça le but de Dieu lorsqu'il a créé la sexualité. Et qu'ils deviennent une seule chair, et qu'ainsi ils deviennent forts, solides, unis, OK, et grandis, OK. Il y a des passages de la Bible qui disent « Lorsque 1 plus 1, ça fait 10 » dans le langage de Dieu. Parce que lorsqu'on s'unit, on devient plus fort, capable d'affronter tous les problèmes, toutes les difficultés, toutes les épreuves de la vie, lorsqu'on est soudé, solide. Amen. Ça, c'était le plan de Dieu. Lorsque Jésus parle et qu'il dit « Ils ne sont plus deux, mais une seule chair, et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Pourquoi qu'il dit ça? C'est parce que c'est inséparable. Il y a une seule façon qu'on peut séparer ça, c'est en le déchirant ou en le brisant. Okay? Et en apparence, on voit pas ça. Parce que lorsqu'un homme et une femme s'unissent et qu'ils s'en vont chacun de leur bord, on a l'impression que c'est facile à désunir. Mais le problème est au niveau de l'âme. Et vous savez, il y a un passage, lorsque Dieu a reconnu le roi David comme le roi, lui qui était insignifiant, petit et qui avait vraiment pas l'air d'un roi, il a dit, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et tout ce que Dieu bâtit, tout ce que Dieu crée, ça n'a pas rapport à l'apparence, ça a rapport au cœur. Et la sexualité, c'est une question d'âme, c'est une question de cœur, et non une question physique. Mais nous, en tant qu'êtres humains déchus, on en a fait quelque chose de physique. Et on a oublié l'âme en arrière. Et tout ce qui découle lorsqu'on ne le vit pas comme Dieu le fait. Donc, cette unité-là, belle et merveilleuse que Dieu a créée, la seule façon qu'on pouvait le séparer, c'était de le déchirer ou de le briser. Et l'homme, à cause de ça, l'être humain, depuis des siècles et des millénaires, vit des brisures et des brisures et des déchirements de son âme. Et de là, plein de souffrances qui se répercutent dans tout ce que je vous ai nommé que l'âme est. Il faut comprendre ça. Pour comprendre que Dieu n'est pas un Dieu légaliste qui veut nous priver de plaisir, mais il veut juste nous faire comprendre ce qu'il a créé afin qu'on ne se laisse pas avoir et qu'on ne tombe pas dans un piège de l'ennemi qui veut détruire notre âme, mais qu'on se réajuste avec sa création et qu'on le vive comme lui l'a créé. Amen. J'aime toujours apporter, quand je parle de ça, quelques preuves que la sexualité est si proche de l'âme. Donc, ceux qui m'ont déjà entendu parler de ça, ça va être des répétitions, mais pour moi, c'est important. Lorsque Adam et Ève ont péché la première fois et qu'ils ont eu honte, la Bible dit qu'ils ont eu honte, comment ils ont caché leur honte? Avec des petites feuilles. Ils ont voulu cacher, pas leur nez, pas leur bouche avec laquelle ils avaient mangé le fruit, pas leurs yeux, mais leur partie sexuelle. OK? Et ça, ça nous révèle, si on veut cacher, la honte, c'est l'âme. OK? On est d'accord? Si on veut cacher l'âme avec notre corps, le premier réflexe de l'être humain, ça a été de cacher les parties intimes. Pourquoi? Parce qu'ils sont, c'est les parties du corps qui sont le plus proches, le plus collées à l'âme. L'autre exemple que j'apporte souvent, c'est l'allaitement. OK? On sait que les femmes qui allaitent ont un lien privilégié avec le bébé qui allaite. OK? Et il y a plein de femmes qui m'ont témoigné de ça au courant de ma carrière. OK? À quel point ce lien-là, il est fort. Et ce lien-là, il est nécessaire pour apporter à l'enfant une sécurité. OK? L'enfant a besoin du lien avec sa mère. OK? C'est pas juste le lait, là. C'est plus que ça que Dieu a créé. Il y a un lien d'âme entre le bébé et l'enfant qui sécurise l'enfant. Et qui fait que ça a été prouvé qu'un enfant qui a été allaité 2 ans, OK, ou plus, est beaucoup plus sécure dans la vie, beaucoup plus solide comme être humain qu'un enfant qui n'a pas été allaité. On fait des études dans certains pays, OK, pour voir la différence entre les deux. C'est un lien d'âme qui est là et qui est nécessaire, OK? Et bien entendu, on connaît toutes les tragédies reliées aux abus sexuels. Et les enfants qui ont été abusés sexuellement, OK? Même si ça a été leur corps qui a été abusé, c'est leur âme qui est affectée pour tout le reste de leur vie. Et ça nous montre encore une fois à quel point tout ce qui est sexuel, c'est collé sur l'âme. Et quand c'est affecté physiquement, c'est l'âme qui est affectée. Et c'est long à guérir. Amen. Donc, j'aime toujours apporter ces petits exemples-là pour vraiment nous convaincre, nous, l'Église, à quel point Dieu a mis ça proche, l'âme et la sexualité. Amen. Donc, sachant ça, l'ennemi, sachant ça, il sait comment aller jouer dans notre âme et détruire notre âme et nous affecter et nous diminuer et nous faire sentir mal et nous faire sentir moins que rien, nous faire sentir sale, mettre la honte sur nous, pour pouvoir nous éloigner de Dieu et faire ce qu'il veut avec nous autres. Amen. Il sait comment détruire l'être humain. Pour moi, c'est important l'introduction de Normand parce que je sais que dans nos sociétés aujourd'hui, à quel point dès l'enfance, nos enfants sont déjà affectés par des enseignements qu'ils ne devraient pas, entendre et par toutes sortes d'expériences aussi qui se vivent à cause de notre société qui banalise la sexualité. Et leur âme est affectée dès leur jeunesse. Des dépendances sont créées, des déformations de la pureté de ce que Dieu a créé sont en temps d'eux autres, et ça fait qu'ils partent mal dans la vie. Et on peut pas se compter de mensonges. La plupart des gens qui rentrent dans la relation amoureuse qui serait la relation qui rendrait heureux, soudés pour la vie, ils rentrent là-dedans déjà blessés, déjà affectés, avec un grand besoin de délivrance, de guérison, ok, qui fait que les relations amoureuses sont ardues, ils sont difficiles, ok. Et même des vieux mariés comme moi puis Lise, on sait que c'est pas toujours facile. Moi puis Lise, on vient juste de commencer encore une autre étude sur le couple. Parce que même après 41 ans de mariage, on a encore besoin de guérison, on a encore besoin de comprendre des choses, on a encore besoin. On est toutes comme ça dans notre société parce que dès notre jeunesse, on est affecté dans cette intimité-là qui touche tellement de proches à l'âme. Donc, l'ennemi veut détruire l'âme des êtres humains créés à l'image de Dieu. Et la deuxième chose qu'il veut détruire, c'est les relations amoureuses. C'est trop menaçant pour lui quand c'est sain et c'est bien fait. L'ennemi, la parole a dit, est venu pour détruire, pour tuer, pour voler. Hein? On va regarder quelques passages du Cantique des Cantiques, qui est un livre dans la parole de Dieu qui m'a interpellé encore une fois, qui m'a souvent interpellé. C'est un livre qui parle vraiment des relations amoureuses, au-delà de l'amour agapé. Et ça parle d'un homme, d'un jeune homme et d'une jeune fille. Okay? Il y a d'autres personnages dans le livre. Il y a Salomon qui apparaît une couple de fois. On ne sait pas trop pourquoi. Et que toutes les filles aiment. On sait que Salomon était vraiment dans le champ par rapport à l'unicité du couple. Il y avait 700 concubines puis 300 femmes, je pense. Mais là, il parle d'un jeune homme et d'une jeune fille. OK? Et il y a des choses qui m'ont interpellé par rapport à ça et par rapport au plan de Dieu pour les relations amoureuses. On va en lire quelques passages. Premièrement, je vous commence avec un passage qui parle de l'amour, de cet amour-là. Ça dit « Soutenez-moi avec des gâteaux et des raisins, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. » C'est fort, l'amour. Hein? Elle court, la maladie d'amour. Des enfants. Amen. Ça peut être une maladie. Sauf si c'est vécu exactement comme Dieu veut. Mais même, je vous dirais, même si c'est vécu comme Dieu veut, quand tu regardes deux amoureux de l'extérieur, ça a l'air d'une maladie aussi. Amen. Des fois. Mais je vais vous emmener dans des accents que j'ai vus en relisant le livre, en préparant mon message. Donc, voici quelques versets. On va découvrir ça ensemble. Le jeune homme. Il dit « Pareil à un lys au milieu des ronces, tel est mon ami parmi les filles. » C'est intéressant que tout le long, il y a cette exclusivité-là de « c'est pas une de mes amies, c'est mon amie. Elle est unique. Elle est unique au monde, parmi toutes les femmes. C'est mon amie. » Ok? Et on retrouve ça sans arrêter, vous allez le voir dans le Cantique des Cantiques, cette exclusivité-là. La jeune femme a dit, « Pareil à un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. » Mon bien-aimé. Hein? Pas un de mes bien-aimés, mais mon bien-aimé. Il y en a juste un. Amen. La jeune femme, c'est la voix de mon bien-aimé. Le voici qui arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Ça continue. 3-2. Je veux me lever pour faire le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je veux chercher celui que mon cœur aime. Pas un de ceux que mon cœur aime, celui que mon cœur aime. Voyez-vous à quel point il y a une exclusivité que Dieu a créée dans ces relations amoureuses. Le jeune homme, tu es belle, mon ami. Il n'y a aucun défaut en toi. L'amour pur a fait disparaître tous les défauts. Les relations amoureuses affectées par le péché ou n'importe quoi a fait ressortir tous les défauts. Mais quand tu aimes de façon pure, on dit l'amour est aveugle, il n'y a plus de défauts. Hein? Tout est beau. Tu es un jardin privé, ma sœur, ma chérie, une fontaine fermée, une source réservée. Amen. Tu es unique. Tu es réservé. Personne d'autre pour toi. Juste moi et toi, toi et moi. C'est ce qu'on retrouve tout le long du cantique, des cantiques entre le jeune homme et la jeune fille. Le jeune homme dit, j'entre dans mon jardin, ma sœur, ma chérie. L'amour pur que Dieu a créé. Tu es mon amoureuse, tu es ma sœur, tu es mon amie, tu es ma confidente, tu es exclusive, tu es unique. La jeune fille, j'étais endormie, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé. Elle avait un cœur juste pour lui. Elle rencontrait plein d'hommes, mais son cœur ne cherchait que lui, n'attendait que lui. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et j'ai été bouleversé. Parce que elle est bouleversée par son unique bien-aimé. Pourquoi qu'elle est bouleversée? Parce que la relation amoureuse que Dieu a créée est connectée à l'âme et elle bouleverse l'âme. Les filles de Jérusalem lui disent, « Qu'a-t-il de plus qu'un autre, ton bien-aimé, toi la plus belle des femmes? Qu'a-t-il de plus qu'un autre, ton bien-aimé, pour que tu nous supplies de cette manière-là? » Incompréhensible pour quelqu'un qui n'a pas ce lien d'âme-là, mais pour celui qui le vit, c'est il ou elle est au-dessus de tout, de tous les autres. Amen. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Le jeune homme, il peut y avoir 60 reines, 80 concubines et des filles en grande quantité incalculable. Ma colombe, ma parfaite est unique. Unique parce qu'au commencement, c'était comme ça. Ce que Dieu a créé au commencement, c'était un compagnon, une compagne unique pour la vie. Amen. Donc, Dieu a créé la sexualité pour une fusion inséparable et unique dans la vie de l'être humain. Mais la réalité, c'est que, comme je vous disais tantôt, on arrive malheureusement dans nos relations amoureuses déjà affectées. Et tout cet aspect-là de notre intimité est déjà abîmé et déformé. Lorsqu'on décide de choisir un couple, on se demande pourquoi c'est si dur, pourquoi c'est si facile un coup qu'on veut vivre notre vie comme on rêve de le vivre. Et on se rend pas compte qu'on est affecté. On a été blessé. On a été l'image de la relation amoureuse, tout a été déformé dans notre cœur. Dieu qui a créé ce lien puissant, OK, à cause des âmes qui sont touchées par ce lien-là, il sait qu'en même temps, Ce lien-là est fragile et ce lien-là est vulnérable. Et c'est pour ça que tout au long du Cantique des Cantiques, il met en garde de réveiller cela avant le temps. Et malheureusement, chez nos jeunes aujourd'hui, c'est réveillé bien avant le temps. Il dit, « Je vous en prie, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. » Dans Cantique des Cantiques, 2-7, 3-5, 8-4, c'est répété. C'est répété parce que c'est important. Parce que Dieu, il sait que c'est un centre puissant pour le couple, mais fragile et vulnérable, et une entrée pour l'ennemi pour détruire l'âme. Réveillez pas ça avant qu'il ne soit temps. Et c'est là l'importance que vient et que Dieu nous demande de s'engager pour la vie lorsqu'on décide d'aller vers une relation intime. C'est ça le mariage qu'on parle dans l'Église, dans la parole de Dieu. C'est l'engagement. Avec cette connaissance-là que la personne avec qui je vais me m'unir, okay, sexuellement, il va se créer une fusion de nos âmes qui vont être inséparables sans une déchirure, une douleur et une blessure, je m'engage avant. Pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, on va se battre pour notre couple jusqu'à la fin. Et un coup qu'on s'est engagé, on peut fusionner. Comprenez-vous que le principe de ne pas avoir de sexualité avant le mariage, c'est simplement un principe de comment on a été créé, point. C'est pas quelque chose de légaliste. Dieu sait comment il nous a créés. Il sait ce que ça va nous faire si on fusionne et on défusionne et on fusionne et on brise et on fusionne et on déchire. Il sait ce qui va se passer en dedans. Il veut pas que ça arrive. Et Dieu nous met en garde. Dieu nous dit, garde comment je vous ai créé. Et ce que je vous demande, c'est de pouvoir vivre l'épanouissement que j'ai mis là-dedans. Mais c'est fragile. Ça s'abîme tellement facilement. Engagez-vous et après ça, fusionnez. Amen. Ça dit dans Cantique des Cantiques 8, 6, « Fais de moi comme une empreinte sur ton corps, sur ton cœur, comme une empreinte sur ton bras. Car l'amour est aussi fort que la mort. La passion est aussi inflexible que le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. » Une flamme bonne? Sûrement, parce qu'elle est de l'éternel. Hein? Une empreinte sur ton cœur. Les âmes fusionnent. Une empreinte sur ton bras. Aussi fort que la mort. Rien ne peut briser ça. Aussi inflexible que le séjour des morts. Une ardeur de feu. Une flamme de l'éternel. Et à cause de ça, Dieu dit, faites attention à cette partie-là de vous que j'ai mis en vous. Gardez-la juste pour ce quoi ça a été créé. Pour fusionner avec la femme ou l'homme que je vous ai réservé et avec qui vous pouvez bâtir une famille. C'est beaucoup plus puissant qu'on le pense. C'est intérieur, c'est pas extérieur. C'est beau l'intimité entre nous et Dieu, et c'est beau aussi dans le couple. C'est une autoroute vers l'épanouissement et le bonheur, si c'est pas blessé, affecté et brisé. Amen. Donc, tout contexte sexuel, en dehors du plan de Dieu, au commencement, c'est un chemin que l'ennemi utilise pour nous détruire. OK? Parce qu'il a accès par là à toute notre âme. Il peut faire ce qu'il veut avec nous autres. Il sait que de cette façon-là, il peut tout défermer ce que Dieu a mis de beau en dedans de nous autres. Il est même arrivé à détruire toute dignité humaine avec le cours du temps en rabaissant cette merveille qui est la sexualité et cette merveille qui est l'être humain à une question d'identité. Et aujourd'hui, c'est tragique de voir que les gens parlent constamment d'une identité sexuelle. C'est plus une identité d'être un être humain. On est rendu du sexe. Mon identité, c'est ma sexualité. C'est grave. Quel rabaissement. On était des humains, puis on est rendu une identité sexuelle. C'est ce que l'ennemi a réussi à faire. Et pourquoi ça s'est fait? À cause de la proximité de l'âme et de la sexualité. Et si tu joues constamment là-dedans, ça devient ton identité. C'est puissant de même. Les relations amoureuses avant Jésus-Christ, c'est quoi? C'est tout ce qu'on voit autour de nous avec les difficultés, les blessures, les déceptions, les brisures intérieures que ça comprend. De couple, familial, toutes les tragédies qui en découlent autour de nous, incluant les affaires extrêmes, les suicides, les féminicides et tout ce qu'on voit de tragédie, qu'on entend aux nouvelles régulièrement. C'est ça que ça fait. Hein? C'est sûr que la majorité des blessures sont pas ces extrêmes-là, mais c'est l'intermédiaire entre le bonheur et ça. Heureusement, la bonne nouvelle, il faut que je vous amène une bonne nouvelle quand même aujourd'hui. Avez-vous le goût d'entendre une bonne nouvelle? C'est qu'il existe un après Jésus-Christ qui est là pour restaurer. Après Jésus-Christ, c'est la restauration de l'âme et des relations amoureuses et des couples et de la famille et de la société. Et ça, c'est l'œuvre du sang de Jésus qui a coulé pour nous sur la croix et qui est assez puissant pour nous restaurer. Et j'en parlerai pas longtemps parce que je voulais vraiment vous emmener ce qui a besoin d'être restauré. On le sait que la plupart de ceux qui ont goûté à Christ, à quel point il vient restaurer nos âmes. Okay? Donc, il n'y a pas de limite à la puissance du sang de Jésus pour restaurer nos âmes. Mais il faut comprendre c'est quoi qui a besoin d'être restauré pour pouvoir être mieux restauré. En même temps, il faut comprendre, une fois restauré, c'est quoi le chemin qui peut nous détruire encore pour éviter ces chemins-là. C'est pour ça que Jésus a dit à la femme adultère, « Moi non plus, je te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Autrement dit, va et arrête de laisser ton âme se faire détruire par une sexualité malsaine. C'est ça qu'il voulait dire quand il disait « ne pêche plus ». C'est pas comme rentre dans un carcan religieux et légaliste, non. Arrête de faire détruire ton âme. C'est pas pour ça que j'ai créé la sexualité. Amen. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Je suis conscient que on a toutes sortes de backgrounds, on a vécu toutes sortes de choses, ok, et qu'on a besoin, tout le monde, de restauration. La bonne nouvelle, c'est que le sang de Jésus-Christ est puissant pour nous restaurer. Et cette puissance-là. Et moi, puis on écoutait un enseignement de Mark Driscoll, un prédicateur aux États-Unis, qui raconte un peu son témoignage avec son épouse et qui nous compte que son épouse, il a su des années après son mariage qu'après qu'ils avaient commencé à sortir ensemble, elle l'avait trompé. Et ça l'avait créé, sans qu'il sache, un froid dans leur vie d'intimité pendant des années ensemble, jusqu'à temps qu'il y ait cette révélation-là qui demande à sa femme si c'était vrai. Il y avait eu un rêve et sa femme lui a dit « Oui, c'est vrai, je t'ai trompé. » Et après ça, ils ont découvert que elle avait un problème, cette dame-là, à cause qu'elle avait été abusée étant jeune. Et ils se sont aperçus que même avant de comprendre que le sang de Jésus, c'est un pasteur, lui. Puis elle était femme de pasteur et les deux faisaient du ministère depuis des années. Et il y avait cette brisure-là qui n'était pas guérie en dedans d'eux autres. Et elle avait toujours pensé, Dieu me purifie, le sang de Jésus me purifie de mon péché. Mais elle n'avait jamais réalisé que c'est pas juste de ton péché. Jésus purifie aussi du péché que les autres ont eu envers toi. Et pour une femme abusée, elle avait besoin de comprendre ça pour arrêter de se sentir sale, indigne, et l'empêcher d'avancer et de s'épanouir en tant que femme. Elle était victime d'un abus, mais pour elle, elle n'avait pas compris que le sang de Jésus venait aussi purifier de ce qui avait été fait contre elle, pas juste ce qu'elle avait fait. Amen. Le sang de Jésus, c'est puissant pour nous purifier. Et frères et sœurs, il y a de l'espoir pour tout le monde quand on est en Jésus-Christ. Peu importe ce que vous avez vécu. Peu importe ce qu'on vous a fait ou ce que vous avez fait. Le sang de Jésus vient nous purifier de tout ça. Il faut ouvrir notre cœur au sang de Jésus qui vient nous purifier de tout ça. C'est un cheminement, la guérison. Okay? Et là, je m'adresse aux jeunes. C'est un cheminement, la guérison. Vous n'êtes pas obligé de, comme moi et plein d'autres personnes, avoir besoin de 20 ans de cheminement, de guérison. Faites les bons choix aujourd'hui. Et évitez d'avoir besoin de la guérison. Ça va être bien plus facile, la vie, pour vous autres. Ça va être bien plus facile de pouvoir vivre une vie amoureuse épanouie et pas avoir d'obstacles. Commencez de la bonne façon et évitez cette guérison-là qui est nécessaire pour une vie épanouie si on n'a pas fait les bons choix étant jeune. Aux jeunes célibataires, qui se sont gardés purs. Je vous encourage, restez comme ça. Laissez pas l'ennemi venir jouer dans vos âmes. Ouvrez pas la porte à la sexualité. Aucune forme. Parce que toutes les formes, virtuelles, pas virtuelles, l'autosexualité ou peu importe, l'ennemi vient jouer dans votre âme et vient la détruire. Ouvrez pas la porte. Amen. Aux célibataires qui se sont pas gardés purs, laissez-vous laver par le sang de Christ et fermez la porte à l'ennemi de vos âmes qui cherche juste l'occasion de continuer de vous faire du mal et de vous blesser. Aux couples qui se fréquentent, comme Dieu vous demande de vous fréquenter, continuez comme ça. Gardez la fusion pour après votre engagement dans le mariage. Et aux couples qui vivent pas ça, qui sont ensemble mais qui se sont jamais engagés, mais qui vivent cette fusion-là, le sang de Christ est puissant lorsqu'on se repent et qu'on dit « Seigneur, j'ai fait fausse route. » Faites pas comme le monde qui dit « On veut essayer avant. » Dans le plan de Dieu, non, mais c'est dans l'Église comme ça l'est à l'extérieur de l'Église. Le plan de Dieu, c'est pas qu'on essaye avant, parce que si on essaye avant, on va fusionner, et si ça marche pas, on va être obligé de déchirer et briser notre âme. Donc, ça peut pas être ça. Dieu fait pas d'exception. Son plan ne change pas. Donc, faites marche arrière et dites, on va recommencer. Si vous êtes sûr de pouvoir passer votre vie ensemble, bien, mariez-vous. Et si vous êtes pas sûr, bien, arrêtez de fusionner. La déchirure va être encore plus grande. Laissez le sang de Jésus venir vous libérer et recommencer de la bonne façon. Amen. Aux couples qui sont mariés, laissez-vous guérir pour un plus grand épanouissement dans votre intimité de couple. Laissez le sang de Christ vous guérir parce que Dieu a quelque chose de plus grand pour vous dans votre couple. Et restez fidèles. Et n'ouvrez pas la porte à aucune autre forme de sexualité que votre intimité basée sur votre vie de couple. pour votre fusion de couple. Amen. Et à tous ceux que j'ai nommés et toutes les autres, laissons-nous restaurer. On a besoin de Christ. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange. On va chanter ce chant-là qui dit « Viens toucher ma vie ». Et je vais terminer avec ce message-là. On va chanter « Viens toucher ma vie ». C'est ça que Dieu veut qu'on change. Parce que Jésus sait que lui seul peut toucher et guérir notre vie et notre sexualité. OK? Il a cette puissance-là. Il est mort sur la croix pour ça. Son sang a coulé pour ça. Il a accepté la souffrance pour ça. Il veut qu'on ne se prive pas de la puissance de qui il est et de la puissance de son esprit. Amen.